Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 18h30 temps universel du lundi 25 mars 2019. Abdourahmane Dia et Raissa Girondin à la présentation, voici les titres.
Le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu dans le village d'Ogossagou où au moins 110 peuls ont été massacrés. Au Mali, c'est la consternation, témoignage du préfet de Bankass.
Une bande de personnes est venue attaquer le village de Ogossagou en brûlant, en tuant les personnes qui étaient là-bas, certaines dans leur sommeil.
Une délégation du Conseil de sécurité annonce une plus grande coopération entre la MINUSMA et le G5 Sahel.
La Maison-Blanche célèbre le rapport final du procureur spécial Robert Mueller n'a pas trouvé une entente entre Donald Trump et la Russie.
Le président Trump, par ailleurs, qui signe une déclaration reconnaissant officiellement le Golan comme étant un territoire israélien.
Ne ratez pas la Minute Écho et les éliminatoires de la CAN 2019 dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal.
Après l'attaque d'Ogossagou qui a fait au moins 110 morts, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu sur les lieux pour constater les faits avant de rendre visite aux blessés admis à l'hôpital Sominé Dolo de Mopti. Le point avec Mamoudou Bokoum depuis Mopti dans le centre du Mali.
Cette visite du président de la République intervient 48 heures après l'attaque du village de Ogossagou. Sur place, Ibrahim Boubacar Keïta était dans toutes ses émotions et a même versé quelques larmes. Dans ses propos, Ibeka a reconnu sa faute en tant que président de la République et il a même présenté ses excuses aux parents des victimes, des parents à qui il a remis une enveloppe symbolique. Toutefois, Ibeka assure que justice sera faite. Dans ce voyage d'Ogossagou, le président était accompagné du nouveau chef d'état-major général des armées, le général de division Abdoulaye Koulibaly, à qui il a donné un message clair. Plus jamais de tels actes sur le territoire malien, a-t-il martelé. Après Ogossagou, le chef de l'État s'est rendu à l'hôpital Sominé Dolo au chevet des blessés. Une trentaine environ qui pourront tous être pris en charge sur place selon les autorités sanitaires. La milice Dogon Dana Ambassagou est soupçonnée d'être derrière cette attaque. Conséquence, elle est dissoute par le Conseil des ministres extraordinaires tenu pour la circonstance. Mais le mouvement d'autodéfense nie complètement les faits. Autre décision du Conseil des ministres, c'est le changement à la tête de la hiérarchie militaire. Mais les mopticiens pensent que cela ne suffit pas. Il faut un réel engagement de l'État pour sécuriser les populations et leurs biens. D'autres estiment qu'il faut aller plus loin, c'est-à-dire dissoudre le gouvernement qui serait incompétent selon eux. C'est la première fois qu'une attaque au centre fasse autant de morts, 137 personnes selon le bilan officiel. Il faut rappeler que dans la même zone, il y a eu une attaque similaire à Koulogo qui a coûté la vie à une trentaine de personnes. Le dimanche 17 mars dernier, l'attaque du camp de Djoura a fait plus de 20 militaires morts. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
On reviendra sur la situation dans le centre du Mali dans notre partie magazine.
Au Niger, une série d'attaques de djihadistes de Boko Haram a fait 14 morts ce week-end dans 4 localités du sud-est, proches du Nigeria. C'est ce qu'indique ce lundi un nouveau bilan rendu public par le gouverneur de la région de Difa. Il a assuré que les forces de défense et de sécurité ont été déployées dans les villages visés. Les insurgés pénètrent au Niger en traversant à pied ou à dos de cheval la rivière qui sert de frontière naturelle entre le Niger et le Nigeria, a-t-il souligné.
Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, s'est incliné ce lundi à Kigali devant le mémorial du génocide en marge d'une visite au Rwanda pour un forum économique. C'est une première dans les relations entre les deux pays depuis 1994.
Aux Comores, les forces de l'ordre ont dispersé une manifestation de l'opposition qui accuse le chef de l'État sortant, Azali Assoumani, d'avoir orchestré une fraude pour se faire réélire dès le premier tour de la présidentielle. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Des candidats au scrutin du dimanche, accompagnés d'une centaine de leurs partisans, ont tenté de marcher sur la place de l'indépendance à Moroni. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient de hold-up électoral en cours. Les forces de l'ordre ont utilisé des tirs de gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour les disperser. Le calme est revenu en début d'après-midi aux abords de la place, interdite à la circulation. Une source hospitalière a fait cas de 12 blessés, dont 3 candidats à l'élection et un gendarme. D'après Mahamoudou Ahmada, candidat du parti Djoua, je cite, « les forces de l'ordre ont pris fait et cause pour un pouvoir qui a perdu toute légitimité ». Les Comoriens attendent les premiers résultats du scrutin dont le dépouillement est toujours en cours, selon la commission électorale. Hier, les 12 candidats opposés au président sortant Azali Assoumani ont dénoncé une mascarade et appelé la population à la résistance. Après avoir dirigé le pays de 1999 à 2006, M. Assoumani a été réélu en 2016.
Le chef de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge met en garde contre les conséquences sanitaires du cyclone Idai en Afrique australe. Selon LHC, les rescapés sont confrontés à une bombe à retardement avec des risques d'épidémie de maladies comme le choléra. Alors que le bilan provisoire dépasse les 700 morts, les travailleurs humanitaires sont engagés dans une véritable course contre la montre pour tenter de secourir des milliers de sinistrés.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et l'actualité dans le reste du monde, rentrée dimanche soir de Floride, le président américain Donald Trump a assuré à la Maison-Blanche n'avoir aucun problème avec la publication complète du rapport de Mueller, écartant toute collision entre la Russie et la campagne de Donald Trump en 2016. Nathalie Barge.
Le ministre de la Justice, Bill Barr, a publié hier soir un résumé du rapport du procureur spécial Robert Mueller, mais les leaders démocrates du Congrès ont exigé de le voir dans son intégralité, estimant que M. Barr, nommé par Donald Trump, ne serait pas un observateur neutre. Le ministre a conclu que le document, qu'il a passé en revue, ne mentionnait aucun délit susceptible d'entraîner des poursuites judiciaires sur le fondement de l'entrave à la justice. Le résumé indique toutefois que la Russie aurait tenté d'influencer l'élection par des campagnes de désinformation. Le président Donald Trump a retweeté l'un de ses messages de la veille, disant « Pas de collusion, pas d'obstruction, disculpation complète et totale ». Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré ce lundi que le président russe Vladimir Poutine avait clairement indiqué lors de sa rencontre avec M. Trump l'an dernier à Helsinki qu'il était plus que disposé à réchauffer les relations entre les deux pays, mais que c'était aux États-Unis d'agir.
À la suite de la visite du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Washington, le président américain Donald Trump a signé aujourd'hui à la Maison-Blanche un décret reconnaissant officiellement la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Clairement, Ingebourg.
À 15 jours d'élections législatives incertaines en Israël, c'est un coup de pouce majeur que Donald Trump donne ainsi au premier ministre israélien. De son côté, M. Netanyahou a déclaré qu'Israël ne renoncerait jamais à la majeure partie du Golan syrien. Israël a conquis cette partie du Golan lors de la guerre des Six Jours en 1967 avant de l'annexer en 1981. Cette annexion n'a jamais été reconnue par la communauté internationale. Le président américain a également déclaré que les États-Unis reconnaissaient le droit absolu à Israël à se défendre. Donald Trump a qualifié d'attaque méprisable le tir d'une roquette en provenance de la bande de Gaza qui a fait 7 blessés près de Tel Aviv dans la nuit de dimanche à lundi. L'armée israélienne a lancé en représailles des frappes dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou devait rester initialement jusqu'à mardi dans la capitale américaine, mais il a écourté son voyage suite à ce tir de roquette.
En Afghanistan, 13 civils, dont 10 enfants, ont été tués lors d'une frappe aérienne menée par les forces militaires internationales dans le nord du pays dans la nuit de vendredi à samedi. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'ONU.
En Syrie, plus de 9000 femmes et enfants étrangers proches de djihadistes se trouvent dans un camp de déplacés du nord-est du pays. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole des autorités kurdes, Lukman Ami, 2 jours après l'annonce de la fin du califat du groupe État islamique. Les combattants de l'État islamique arrêtés par les forces démocratiques syriennes ne se trouvent pas dans le camp avec leurs proches, mais sont emprisonnés par les autorités kurdes dans la région semi-autonome qu'elles contrôlent.
En Nouvelle-Zélande, la première ministre Jacinda Ardern a ordonné ce lundi une enquête nationale officielle sur les attaques contre les mosquées de Christchurch afin d'établir si la police et le renseignement auraient pu empêcher le carnage qui a coûté la vie à 50 fidèles le 15 mars dernier. Il est important que rien ne soit laissé au hasard pour déterminer comment cet acte de terrorisme s'est produit et comment nous aurions pu l'empêcher, a-t-elle dit à la presse.
L'accord de Brexit négocié avec Bruxelles n'a pas le soutien suffisant au Parlement britannique pour être soumis une troisième fois au vote des députés. C'est ce qu'a déclaré lundi la première ministre Theresa May. Les dirigeants de l'Union européenne ont donné deux options à Theresa May. Soit l'accord de retrait est voté cette semaine par les députés et le Royaume-Uni effectue une sortie ordonnée de l'UE avec un court report fixé au 22 mai. Soit l'accord est rejeté et Londres aura jusqu'au 12 avril pour présenter une alternative et demander un nouveau report.
Et puis en Inde, le Parti du Congrès a promis de lancer l'assaut final contre la pauvreté avec un revenu minimal garanti pour 50 millions de foyers pauvres s'il remporte les élections législatives d'avril et de mai prochains.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
C'est Nanit Talani qui nous présente la Minute Éco.
Equity Bank Congo en RDC a obtenu un appui financier de 2,8 millions de dollars auprès de Financial Sector Deepening Africa pour étendre ses activités dans 40 villes en zone rurale d'ici 2021. Ecofin rapporte que la filiale, contrôlée à 79% par un groupe financier kényan, prévoit de renforcer son service Cash Express à travers le déploiement de 4000 nouveaux agents bancaires dans des zones mal desservies de la RDC. Equity Bank veut aussi financer les projets des jeunes et des femmes. Les mines d'or et de platine sud-africaines vont supprimer plus de 90 000 emplois au cours des trois prochaines années à cause de l'augmentation des coûts d'exploitation. Le fournisseur d'énergie Eskom a décidé d'augmenter ses tarifs de l'électricité de 9,41% cette année. Ces suppressions d'emplois sont sensibles en Afrique du Sud, où un quart de la population active est au chômage, tandis que les pannes d'électricité et les fortes hausses de prix vont nuire aux perspectives de croissance déjà fragiles.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
Nous parlons des éliminatoires de la CAN 2019. Entre autres qualifiés, on a le Burundi.
Oui, pour la première fois de leur histoire, les Hirondelles ont arraché leur ticket à une phase finale de Cannes. Un match nul d'un but partout face au Gabon d'Aubameyang a suffi au poulain d'Olivier Nyonkoungeko. Tout le Burundi continue de célébrer cette qualification historique. Notre correspondant Christophe Nkurunziza était présent au stade Prince Louis Rwagasore.
Dès le coup de sifflet du coup d'envoi de la rencontre Gabon-Burundi samedi, les joueurs d'Olivier Nyonkoungeko seraient à l'attaque. Décomplexés, les coéquipiers de Saïdo Berahino de Stoke City ont rivalisé avec les Gabonais de Aubameyang. La société d'Arsenal écopera d'un carton jaune au cours de la première manche, en match équilibré à l'issue incertaine sans suivi jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires sur un centre de Berahino à la 75e minute, Cédric Amissi qui joue à Oman propulse le ballon dans les buts du Gabonais Didier Ovono. Le stade vibre de joie. Mais 10 minutes plus tard, le défenseur burundais Omar Ngando marque contre son camp. En silence de mort, s'abat sur le stade. Les joueurs gabonais de l'ancien attaquant Daniel Cousin font tout pour marquer le but de la qualification en vain. Après 3 minutes de temps additionnel, l'arbitre égyptien siffle la fin de la rencontre. Tout le Burundi explose. Le pays venait de se qualifier pour la première fois de son histoire à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Ici en NBA, Houston s'est qualifié pour les playoffs.
Et oui, Houston a assuré sa place en venant à bout de la Nouvelle-Orléans 113-90. Les Rockets, troisième de la conférence Ouest avec 47 victoires et 27 défaites, sont certains de terminer à l'une des 8 premières places du classement qualificatif pour les playoffs. De son côté, le double champion Golden State a repris les commandes de la conférence Ouest grâce à sa victoire face à Détroit. Avec ce succès, combiné à la défaite de Denver à Indiana 124-88, les Warriors affiche seul le meilleur bilan de la conférence Ouest avec 50 victoires et 23 défaites. Les Los Angeles Clippers ont fait un pas supplémentaire vers les playoffs en disposant de New York 124-113. Dans la conférence Est, rien ne va plus pour Boston qui a subi une quatrième défaite de suite face à San Antonio 115-96. Milwaukee a conforté sa place de leader à l'Est en s'imposant face à Cleveland 127-105. Les Bucks comptent désormais 4 matchs d'avance sur Toronto qui s'est fait surprendre à la dernière seconde par Charlotte 115-114.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Abdourahman Dia et Raissa Girondin, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour.
Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu lundi dans le village d'Ogossagoupeul, dans le centre du pays, où au moins 110 habitants peuls ont été tués samedi par des présumés chasseurs d'ogons. Idriss Fall a joint le préfet de Bankras, dans le centre du pays, Boubacar Kané.
Le bilan qui a été communiqué, c'est ce que nous avons toujours. On n'a pas les derniers résultats du travail des services spécialisés.
C'est-à-dire combien de morts au total ?
110.
Est-ce qu'il y a eu des survivants ?
Oui, bien sûr, il y a des survivants.
Et qu'est-ce qui s'est passé samedi ?
Donc, ce qui s'est passé samedi, une bande de personnes est venue attaquer le village de Ogossagoupeul très tôt le matin, en brûlant, en tuant les personnes qui étaient là-bas, certains dans leur sommeil. Et voilà le résultat.
Apparemment, ils ont attaqué aussi un autre village.
Oui, ils ont, après Ogossagou, ils sont allés à côté, à 2 ou 3 kilomètres, un autre village, Wellingra. Bon, là-bas, il y a eu un mort, parce que ils avaient déjà anticipé, ils avaient abandonné leur village.
Est-ce qu'on a des soupçons sur les auteurs présumés?
Bon, les soupçons, c'est les milices d'autodéfense, c'est ça, les soupçons sont orientés vers les milices d'autodéfense, les milices communautaires.
La milice Dogon rejette ces accusations en disant qu'elle n'a pas été mêlée à ces massacres.
Bon, c'est à la justice maintenant, aux enquêteurs, de faire la lumière sur ce triste événement et ainsi que ses auteurs.
Apparemment, le président Ibeka s'est rendu sur place ce lundi.
Oui, effectivement, le président a passé aujourd'hui. Il a visité le village. Il a prié pour le repos de l'âme des défunts. Il a présenté ses condoléances et il a même présenté ses excuses. Et il a donné beaucoup de conseils pour la cohabitation pacifique des communautés, la cohésion sociale. Il a aussi donné des instructions fermes aux forces de sécurité, à l'administration, pour que ces violences-là ne se répètent plus.
Mais ce n'est pas la première fois et le gouvernement a décidé de officiellement dissoudre les milices. Beaucoup de hauts gradés ont été limogés. Est-ce que vous pensez que ces mesures sont assez fortes pour dissuader?
Oui, ces mesures doivent être concrétisées. Les mesures sont prises, il faut maintenant les concrétiser, il faut les appliquer. Si elles sont appliquées, c'est-à-dire si les milices sont mises hors d'état de nuire et si les nouveaux responsables militaires s'attellent au travail et à l'exécution de leur mission, donc nous pensons que les choses vont marcher.
C'était le préfet de Bankras, Boubacar Kané.
On reste au Mali où donc c'est la consternation. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui s'est rendu sur place ce matin, a demandé au nouveau chef de l'armée de s'assurer qu'un tel drame ne se reproduise plus. Le point avec notre correspondant à Mopti, Mamadou Bokoum.
48 heures après l'attaque du village d'Ogossagou, le président de la République s'est rendu sur place. C'est un Ibeka en larmes qui a présenté les condoléances de la nation à la famille des victimes. Le chef de l'État assure que justice sera faite. C'est pourquoi il a lancé un message clair à la hiérarchie militaire. Plus jamais de tels actes sur le territoire malien. Parmi la délégation, il y avait les élus du cercle de Bankras. Aruna Sangaré est le maire de Wenkuru.
Le président de la République l'a dit là-bas. Qu'il invite la population à ne pas se venger, à pardonner. Que toutes les dispositions sont prises pour que les auteurs soient arrêtés et sanctionnés par la loi. Vous savez, il n'y a pas de paix sans justice.
L'attaque de Ogossagou a eu des conséquences au sein de l'armée et à la milice de Gondana Amasagou. Est-ce c'est la solution? Voici la réponse de Oumar Tapo, leader des jeunes à Mopti.
C'est une décision qui a été prise en Conseil des ministres. Si effectivement l'association Dana Amasagou a été créée sur des bases, une base juridique, c'est-à-dire une association légale à la République du Mali qui a un récépissé, donc si l'association quitte, c'est-à-dire les objectifs qu'elle s'est fixés, c'est normal que le gouvernement prenne une décision pour dissoudre cette association.
Alors, et par rapport au changement à la tête de la hiérarchie militaire?
Bon, je crois que c'est un changement qui était nécessaire. Bon, vu la situation dans laquelle se trouve le Mali aujourd'hui, on a besoin des hommes et des femmes capables de se déployer sur le terrain et surtout écouter ses subordonnés. Tout ce que les subordonnés leur disent, ils doivent écouter et travailler avec ça. Et ils doivent être accessibles à tout moment. Donc je crois que c'est des hommes et des femmes comme ça qu'on essaie de mettre au sommet maintenant de la hiérarchie militaire. L'alternative pour la paix au sein du Mali, moi je pense d'abord qu'il faut désarmer toutes les milices présentes au sein, pas dans Amasagou seulement, mais toutes les milices, tous ceux qui possèdent une arme qui n'est pas de l'armée régulière doivent être désarmés. On ne peut pas continuer dans cette anarchie. Tout le monde porte une arme, on ne sait pas qui est qui, et chaque jour, c'est la désolation, c'est des villages qui sont dévastés, c'est des personnes innocentes qui sont tuées. Donc ça ne peut pas continuer, il est temps qu'on arrête ça.
Il faut rappeler que dans la même zone, il y a eu une attaque similaire à Koulogo qui a coûté la vie à une trentaine de personnes. Le dimanche 17 mars dernier, l'attaque du camp de Djoura dans le cercle de Tenenkou a fait plus de 20 militaires morts. Mamoudou Bokoum Amopti pour VOA Afrique.
Au Cameroun, le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, a célébré dimanche 24 mars son 34e anniversaire. Un anniversaire célébré sur fond de vives critiques, notamment l'implication de militants du RDPC dans des détournements de fonds publics, nous dit de Yaoundé notre correspondant Emmanuel Juntap.
De nombreux Camerounais imputent au RDPC une reculade de la moralité publique. En effet, plus d'une vingtaine de hauts dignitaires de ce parti sont soupçonnés d'atteinte à la fortune publique. D'autres anciens barons du parti purgent actuellement de lourdes peines pour le même délit. Ariette Ekwe, journaliste et militante politique, accuse un système cautionné par le président national du RDPC, Paul Biya.
Dès le départ, la fortune publique a été vandalisée. Et donc ces jeunes fonctionnaires qui sont arrivés aux affaires au milieu des années 80, ils ont vu comment il était possible de prendre l'argent à gauche à droite. Maintenant, Biya, il crie, on trouve des milliards dans les chambres. C'est encore une république. Comment se fait-il que des fonctionnaires soient plus riches que des industriels? C'est lui qui a insufflé ça et qui déclare un peu, c'est bien, nous on serait contents. Hein.
Le tribunal criminel spécial a condamné le 20 mars dernier un ancien ministre des Finances et un ex-directeur général de la radio et télévision publique. Ces deux anciens militants du RDPC sont condamnés pour le détournement de plus de 18 milliards de francs CFA. Beaufort Essama est cadre du RDPC dans le deuxième arrondissement à Yaoundé.
Dans le parti, on le condamne. Si on l'appréciait dans le parti, le président du parti étant du RDPC, l'aurait couvert ses militants. Alors comme il condamne cette façon d'être, et tous les militants le condamnent, il n'y a pas un pays au monde où il n'y a pas de brebis galeuses.
La rigueur et la moralisation sont les deux credos que le président national du RDPC a prôné dès sa prise de fonction comme président de la République en 1982, rappelle pour sa part Ruben Soutchou, président du comité de base RDPC Mokolo 4B à Yaoundé.
Il faut rester réaliste dans la vie. Quand le président de la République a pris le pouvoir, il a dit rigueur et moralisation. Les gens n'ont pas pris ça au sérieux. Aujourd'hui, ils sont responsables de leur propre turpitude.
C'est à Bamenda, chef lieu de la région du Nord-Ouest en zone anglophone, que le RDPC a vu le jour le 24 mars 1984. 34 ans après sa création, le parti reste leader sur l'échiquier politique, n'a jamais perdu officiellement un scrutin et met à son actif la paix au Cameroun, selon ses militants.
Le RDPC concourt à maintenir la paix dans notre cher beau pays. Le RDPC a apporté sa part de pierre pour l'édifice de notre cher beau pays, le Cameroun.
Il a prôné le développement, il prône en quelque sorte le vivre ensemble, ce qui est une valeur très importante pour notre pays.
Le vivre ensemble est cependant mis à mal depuis 2016 du fait de la crise anglophone dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Yaoundé, Emmanuel Jules Tap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le ministre américain de la Justice, Bill Barr, a publié hier un résumé de 4 pages du rapport du procureur spécial Robert Mueller. Le rapport, dans son intégralité, reste confidentiel, mais le résumé écarte toute collusion entre la campagne de Donald Trump en 2016 et la Russie. Morgan Guerriek a joint James Caesar, il est professeur de sciences politiques à l'Université de Virginie.
Alors, dans cet document, il a dit qu'il n'y a pas eu de collusion entre les Russes et le président. La possibilité de l'entrave à la justice, c'est peu probable. Finalement, il a dit qu'il n'y a pas suffisamment de preuves de continuer une enquête. Donc, à mon avis, c'est un peu dit qu'il est innocent, plus ou moins.
L'enquête du procureur spécial a déjà débouché sur 34 inculpations, dont 6 anciens collaborateurs du président Trump. Est-ce que cela vous surprend que le président soit ainsi blanchi?
Plus ou moins parce que en ce qui concerne les autres, ça n'a rien à voir vraiment avec l'idée de collusion. C'était des crimes ordinaires qu'ils ont commis il y a 10 ans. Ils ont menti au Congrès et ainsi de suite. Mais à mon avis, rien à voir avec l'idée de collusion.
Quelles sont les conséquences politiques pour les démocrates?
Alors, ça c'est intéressant. Pour le moment, ils ne peuvent pas s'excuser en disant qu'on a fait une erreur. Ils vont continuer à accuser le président ou à dire qu'il faut voir tout le document, etc., etc. Mais à la fin, je crois qu'il y aura au sein du Parti démocrate une espèce de division entre ceux qui disent ça suffit, continuer à enquêter sur les autres choses, les crimes du président qui ne sont pas liés à la collusion. Et il y aura des gens qui continuent, essayer de trouver quelque chose d'autre. J'ai tendance à dire que c'est fini, c'est assez définitif. La question, qui a déclenché cette enquête au début? Est-ce que ce n'était pas Hillary Clinton avec l'assistance des autres qui ont parlé à la police nationale? C'est la question qui a commencé cette enquête qui est intéressante. Si les républicains vont continuer à enquêter sur cette question-là, je ne sais pas, mais je crois que c'est important à le faire.
Certains démocrates disent que le ministre américain de la Justice, qui a donc publié ce résumé du rapport du procureur spécial, n'est pas neutre. Qu'en dites-vous? Est-ce que c'est possible?
C'est bien possible qu'il n'est pas complètement neutre, mais probablement les démocrates vont commencer à dire que Mueller lui-même n'est pas neutre. Pour le moment, me semble-t-il, il n'y a pas de problème, il est presque neutre. Et c'est définitif. À mon avis, les démocrates, maintenant, ils essaient de maintenir une idée de culpabilité. Mais je crois probablement qu'il est tout à fait innocent en ce qui concerne la collusion.
C'était James Caesar, professeur de sciences politiques à l'Université de Virginie.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis à la mise en onde de Georges Léonard Sagno, à la console Nelson Lopes, à la présentation Abdourahmane Dia et Raissa Girondin.
On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM.
Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.